Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, Alliance Plus 103.1 Nîmes, en compagnie de Stéphane Marin à la technique. Je suis très heureuse et honorée de recevoir aujourd'hui Jean Joubert, président de la Maison de la Poésie Languedoc-Roussillon, poète, romancier, pour écouter avec lui quelques-uns de ses derniers poèmes. Sur son parcours littéraire, quelques mots, et puis sur sa biographie également, il est né à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, en 1928. Il fait ses études au collège de Montargis, puis à la Sorbonne. Après de longs séjours en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, il s'installe à Montpellier, où il découvre un sud méditerranéen qui marquera profondément ses œuvres. Il a longtemps enseigné la littérature anglo-américaine dans cette ville, à l'université Paul Valéry. Il habite maintenant dans un petit village de la Garrigue languedocienne et se consacre à ses activités d'écrivain. Son quatrième roman, L'homme de sable, a obtenu le prix Renaudot en 1975. Les poèmes 1955-1975 aux éditions Grasset ont obtenu le prix de l'Académie Mallarmé en 1978 et Les enfants de Noé à l'École des loisirs, le prix de la Fondation de France pour le meilleur roman de la jeunesse. Il a publié une vingtaine d'ouvrages pour la jeunesse. Une de ses publications, Visage miroir, avec des bois de Pierre Laroche aux éditions de l'Envol en 2003, Arche de la parole, Le cherche-midi 2001, Anthologie personnelle, Actes Sud, 1997, La main de feu, Grasset, 1993, Les 25 heures du jour, Grasset, 1987, 50 toiles pour un espace blanc, édition Grasset, 1982, Les poèmes, 1955-1975, Grasset, 1977, donc qui a obtenu le prix de l'Académie Mallarmé, et État d'urgence, publié en 2008, qui rassemble des poèmes écrits de 1996 à 2008 aux éditions Edith Inter. Alors, bonjour Jean.
Bonjour.
J'ai quelques petites questions à vous poser. Pouvez-vous, par exemple, pour que nous commencions à faire connaissance, vous nommer quelques-unes de vos sources d'inspiration ?
Oui, elles sont multiples. J'ai une longue expérience de la poésie depuis, je peux dire, un demi-siècle pratiquement. Je pense qu'il y a quand même des thèmes qui sont revenus constamment. D'abord, il y a eu une poésie amoureuse, bien sûr. Il y a eu aussi une poésie de la nature. Je suis un poète qui a vécu très souvent dans un milieu naturel, même si j'ai vécu un peu à Paris, à New York et à Montpellier. Donc il y a cette présence très, très forte du monde de la nature, le monde animal, le monde végétal. Il y a aussi cette espèce de conscience que j'ai et qui va en s'accroissant, du caractère assez tragique de la vie contemporaine, avec la présence de la violence, de l'aliénation, et cela aussi passe dans la poésie. C'est-à-dire il y a un côté célébration du quotidien, de la vie quotidienne, mais aussi cette conscience que, à mes yeux, l'homme est menacé, ce qui explique d'ailleurs le titre de mon dernier recueil, État d'urgence, que j'ai emprunté au domaine de la politique et même du monde militaire. Nous sommes en état d'urgence, à mes yeux.
Après, est-ce que quand vous écrivez, vous avez une forme poétique d'écriture favorite, ou est-ce que...
Oui, d'abord, je dois mentionner que j'ai commencé par écrire de la poésie. Mon premier recueil était un recueil de poèmes chez Segers. Puis, un peu plus tard, j'ai voulu essayer le genre romanesque. Et j'ai voulu essayer aussi de jeter des ponts entre la poésie et le roman. Voilà. Donc, j'ai publié une quinzaine de romans, dont certains, me semble-t-il, appartiennent presque au domaine de la poésie. En particulier, mon dernier, Le Sud, mon dernier en date, qui s'appelle « Un peu avant la nuit ». Mais dans le domaine de la poésie, bon, il y a une grande diversité. au début, j'ai écrit quelques poèmes qui étaient presque classiques, avec l'hymne. Puis je me suis dégagé de cela. Bon, j'écris une poésie qui est une poésie moderne, mais pas d'une manière démente, si je puis dire. Mais bon, je crois quand même que le poète moderne, il écrit avec une forme de prosodie qui n'est pas la prosodie classique. Les rimes existent peu, mais bon, comme vous le savez, il y a le recours à l'assonance. D'un autre côté, il y a le recours aux images, aux métaphores, et moi je tiens beaucoup au caractère, je dirais, musical du poème. Pour moi, la poésie, elle est le langage qui essaie de dire quelque chose au-delà du langage quotidien, tout en utilisant le langage quotidien, hein, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, comme l'écrivait Mallarmé. Bien que je ne sois pas très Mallarmé, hein, mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi je cite Mallarmé, mais essayer de créer dans l'esprit de notre lecteur à la fois ce sens du langage et cette harmonie des mots pour créer un état de réceptivité. Enfin voilà un peu mon art poétique dans un résumé que je trouve tout à coup un peu bref, mais enfin, bon, voilà.
Donc, nous allons aller à la rencontre de l'écriture de Jean Joubert, qui a souhaité nous présenter un extrait de « Les sabots rouges » qui représente, m'a-t-il dit, une quête des origines. Donc, c'est un recueil qui a été publié en 1979 chez Grasset, puis dans une nouvelle édition en 2007 à l'Écluse.
Oui, bon, j'ai coutume de dire que c'est mon livre chéri. Alors, je réitère... Hein. Pourquoi est-ce que c'est mon livre chéri ? Parce que c'est un livre autobiographique. Ça n'est pas une autobiographie globale. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller en quête de mes origines. C'était après la mort de mon père, tout à coup. Je vivais en Languedoc et je suis retourné au pays natal bon, pour être avec mon père à la fin de sa vie. Et tout à coup, le passé est revenu et j'ai fait une sorte de recherche, hein, trouver mes ancêtres qui sont vraiment des gens du peuple, sabotiers surtout, c'est pour ça que j'ai appelé les sabots rouges, bûcherons, charbonniers dans les forêts, jardiniers dans les châteaux en Sologne. Puis la plupart de ces ancêtres sont remontés au début du XXe siècle vers les usines, parce qu'à Montargis, il y avait une énorme usine, l'usine Hutchinson, usine de caoutchouc, et la plupart d'entre eux travaillaient dans les usines, sauf l'oncle dont je parle dans Les Sabots Rouges. Bon, donc c'est un livre qui me tient à cœur, et moi j'y apparais jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Alors, j'ai choisi un passage parce que c'est un peu la découverte de la poésie. Ma mère, lorsque j'avais 12 ou 13 ans, m'a donné un cahier vert, sur lequel elle avait écrit des poèmes. Voilà. Alors, elle écrivait, elle n'écrivait pas ses propres poèmes, elle recopiait des poèmes. Alors, quand elle était une jeune adolescente. C'est à cette époque, je suppose, qu'elle recopia dans le cahier vert ses poèmes préférés. Beaucoup de Sully Prudhomme, Georges Rodenbach, mais aussi la Marseillaise de la paix de Lamartine, le Comte de Lille, Vigny, le Chénier de la jeune captive, une page de Verlaine, et bien sûr, c'est « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Ce cahier, on peut le lire comme un journal oblique. Et le choix de ma mère, justement, était celui du cœur. La tristesse un peu languissante de ses poètes préférés lui apparaissait sans doute comme un prodigieux écho qui à la fois prolongeait et apaisait la sienne. Partout, ce n'était que pluie, brume, après-midi blême, crépuscule et feuilles mortes. J'ai trop connu Montargis dans mon adolescence pour ne pas imaginer quel regard ma mère, orpheline et éloignée des siens, pouvait jeter sur ce monde stagnant et gris. Pour elle aussi, c'était toujours l'automne. Lorsqu'elle calligraphie « Première étude de Prudhomme », citation, « On voit dans les sombres écoles des petits qui pleurent toujours. Les autres font des cabrioles, eux restent au fond des cours. » Je sais bien à quoi elle pense. Des préaux obscurs qui sentent la poussière et la laine mouillée, les troncs luisants des platanes, les rafales, les flaques, le froid, et la fenêtre de l'étude qui s'allume, où tout à l'heure, accoudé au pupitre, il lui faudra apprendre ses leçons. Il y a pourtant une autre vie ailleurs, dans le souvenir peut-être des villages, ou dans un avenir imprécis, plein de périls et de mystères. Mais celle-ci, on dirait qu'elle ne va jamais finir. C'est vers mes 14 ans que je trouvais ce cahier ou que ma mère me le donna. Et comme il restait des pages blanches, je continuais naturellement à y inscrire des poèmes. J'aime que nous nous soyons rencontrés ainsi et que Verlaine nous ait servi de lien, puisque c'est avec lui qu'elle achève et par lui que je commence, glissant ensuite vers Mallarmé, Rimbaud, Samain, Corbière et Francis Jammes. Me souvenant de mon enchantement alors, je peux imaginer le sien, et qu'elle se répétait ses vers lorsqu'elle marchait dans la rue, son cartable sous le bras, ou le soir, avant de s'endormir. Pour elle comme pour moi, dans ses années d'adolescence, la poésie régnait sur un domaine secret, et dont nous pressentions obscurément sans doute qu'il était essentiel. J'ai bien peur qu'il n'en soit plus de même pour les jeunes de cette fin de siècle. En 30 ans, la lourde bêtise a poussé plus loin ses ravages. Et pourtant, qui sait? Il y a quelques années, m'étant rendu dans une école où l'on m'avait invité à venir parler de poésie, je me trouvais ensuite entouré de jeunes filles en pull-over et en blue jean. « Mais si, nous aimons la poésie, disait-elle, regardez, nous recopions nos poèmes préférés. » Je feuilletais avec émotion le cahier que l'une d'elles m'avait tendu un peu timidement, les yeux baissés et se mordant les lèvres. C'était Aragon, Prévert, Éluard, Desnos et même un poème de mon ami Roger Kowalski. « Ah, et celui-là, où l'avez-vous trouvé ?»« Ah, sur le cahier d'une copine, il me plaisait, je l'ai recopié. » « Et vous les faites circuler, vos cahiers ?»« Ah, juste entre amis. » Ainsi, rien n'était perdu. Sur ces gamines, dont les yeux, soudain, se mettaient à briller et qui disaient pudiquement l'amour des mots et ce qu'ils éveillaient en elles, venaient buter l'énorme machine qui broie et nivelle les esprits. Elles résistaient à leur manière. Mais je les sentais vulnérables et menacées. Combien de temps tiendraient-elles encore ? Si je les avais interrogées, sans doute m'aurait-elle répondu « toujours ». Je songeais aussi au cahier vert. 60 ans plus tard, elles avaient retrouvé la même passion et les mêmes gestes.
Donc, toujours avec Jean Joubert, en poésie, nous allons écouter quelques poèmes extraits du dernier recueil de poèmes paru en 2008, État d'urgence.
Oui, donc c'est mon dernier recueil en date, qui était précédé par, bon, qui est mon livre de référence, l'anthologie personnelle parue à Actes Sud, dans lequel, selon l'esprit de la collection, on demande au poète qui, forcément, a un certain âge, et même un âge certain, de choisir 400 ou 450 des poèmes qu'il a publiés antérieurement et d'écrire une préface. Donc ça, c'est le livre que je considère comme assez important dans ce domaine, à Actes Sud. Alors, il avait été publié en 1997, il a été réédité en 2004. Je le signale parce que ce n'est pas si fréquent que les recueils de poèmes soient réédités. Enfin, voilà. Cependant, Actes Sud ne publie pas, pour ainsi dire, de poètes français, donc en dehors des anthologies personnelles. Donc, j'avais confié à un éditeur que j'aime bien, qui est à Paris, dans la région parisienne, Edith Inter, mon dernier recueil, État d'urgence. Alors, ce sont des poèmes entre 1996 et 2008, donc après l'anthologie personnelle, et je vais en lire trois qui sont relativement brefs. Oui, au début du recueil, tout à l'heure, je disais de manière succincte, mais que je suis conscient de quelque chose de sombre dans le monde contemporain. Et au début de l'état d'urgence, comme l'indique le titre, il y a des poèmes qui sont assez sombres. Mais je ne veux pas assombrir le temps en cette période de printemps. Et j'ai choisi plutôt des poèmes qui sont des poèmes de résistance à l'invasion des ombres, qui parfois, hélas, n'est que trop perceptible. Alors, un jour encore. Un jour encore nous est donné. Un jour. Et sa parole d'aube. Ses lèvres d'or sur les collines. Un jour encore. Qui remercier ? Le ciel est vide, l'oreille close, les ancêtres serrés dans leur étau de terre. Mais devant nous, la terre est là, comme une paume ouverte où brille la rosée. Comme une plage de lumière vers nous tendue, vers nous, qui souvent courtisons les tourbes de la nuit. Un jour encore, qui remercier ? Remercions cette main de terre vers nous tendue, et au-delà, le corps immense deviné dans la brume qui se déchire. Ce sont l'écoute, la ferveur et la louange qui nous sauvent. Alors, un autre poème qui va aussi dans ce sens de la quête d'un espoir ou même d'une espérance dans ce monde qui est un monde dur, une embellie. C'est un mot que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, un de mes romans s'appelle une embellie. Donc, embellie. Il est venu avec le soir un sourire de soleil après la pluie, un sourire de femme qui a beaucoup marché, beaucoup souffert, dont les pieds saignent. Mais elle sourit à l'homme qui marche vers elle. Et toute la ville grise en est illuminée. Ô chevelure de lumière et de musique, promesse d'une aurore et d'un reste d'amour avant la nuit qui versera sur nos visages une autre chevelure, une noire et violente averse de suie. Et le corbeau viendra crier dans l'invisible des nuages. La bouche noire et violente de la nuit viendra crier. Bientôt, trop tôt. Et ce sera comme une neige noire sur la ville. Pourtant, il est venu un sourire de soleil avant la nuit, une caresse de lumière, l'esquisse d'un baiser, la grâce d'un soupir, avant la nuit, avant la nuit. Et de ce don fragile, nous vivons entre deux nuits, nos mains unies dans la mémoire, nos mains serrées, sauvées de la bouche noire et froide de la nuit. Bon, là, nous sommes, en effet, me semble-t-il, entre ombre et lumière. Vous voyez, moi, je suis en proie d'un combat entre les ombres et la lumière. D'ailleurs, j'avais envie de donner ce titre, « Combat avec les ombres ». Je ne sais pas si c'est un bon titre pour mon prochain recueil. Un troisième poème, extrait d'État d'urgence, « Enfant attaqué par une libellule », qui m'a été inspiré par un dessin d'un dessinateur que j'aime bien, mais dont, hélas, j'ai oublié le nom, qui représente un homme poursuivi par une libellule géante. Et pourquoi ai-je transformé l'homme en enfant ? Bon, on va le deviner dans la conclusion du poème. La libellule voit l'enfant qui joue dans l'herbe avec de petites pierres bleues. La libellule voit l'enfant de ses gros yeux bleus, de ses gros yeux d'un bleu sombre, beaucoup plus gros, beaucoup plus sombre que les minuscules pierres bleues avec lesquelles joue l'enfant. La libellule est immense, avec une bouche d'ogre, des dents d'ogre, des griffes d'ogre, immense. Et l'enfant est comme une fourmi dans l'herbe. Il a de petites mains de fourmi, de petites mains qui jouent avec les minuscules pierres bleues, grains de sable bleu, pollen des bleuets dans les blés de jadis, poussière d'yeux d'anciennes libellules mortes. Dans un fracas d'ailes vibrantes, l'ogresse fond sur l'enfant, qui, aussitôt plongeant dans l'herbe, se glisse dans un trou de souris. L'ogresse ne mord que le vent, car elle ne savait pas que l'enfant est immortel, que l'innocence est immortelle, comme les pierres bleues, les petites pierres bleues dans l'herbe.
Nous allons écouter encore Jean Joubert, un dernier poème qui a été écrit assez récemment, si j'ai bien compris, qui s'appelle « Les trois lampes ».
Oui, c'est un poème inédit en volume, je crois qu'il a été publié dans une revue, oui, même j'en suis sûr, car cela arrive, parfois on propose à un poète un sujet. Bon, j'aime pas trop ça, ça fait un peu lycée ou collège, mais enfin voilà. Là, une amie belge, Béatrice Libert, avait proposé à des poètes le thème « Sous la lampe » ou « La lampe ». Alors j'ai attendu, rien ne se passait, et puis tout à coup j'ai eu comme une espèce de vision, et ce poème est né. C'est un triptyque, et au fond, j'aime bien terminer cette émission sur ce poème, car il rejoint les sabots rouges dont je parlais au début, puisque ce que j'ai vu surgir dans l'écriture du poème, c'est l'oncle sabotier qui a eu une telle influence sur moi, qui m'a fait entrer dans le domaine à la fois de l'artisanat et des arts, et en particulier de la lecture. Donc, les trois lampes. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette lueur qui traîne là-bas, ténèbres, à l'heure du loup et de la lune, entre sommeil et insomnie? On dirait une lanterne qui peu à peu s'approche, une de ces lanternes de jadis en fer blanc qui sentent le pétrole. Et l'homme qui vient vers moi et la tient à la hauteur de sa poitrine, mais oui, je le reconnais tout à coup, c'est l'oncle Georges, le sabotier. Sans me voir, il marche lentement sur le sentier d'un village boueux où, dans la touffeur des étables, de grandes bêtes ruminantes remuent leurs chaînes. Que fait-il donc sur ces chemins de terre, chemins de boue, chemins de pluie? Que cherche-t-il encore avec sa vieille lanterne, dont l'œil fumeux vacille dans le vent? Lampe au poing, fatigué, fantôme gris dans le brouillard, il marche droit et me traverse aveuglément. 2. Il a poussé la porte gémissante de la masure. Il a laissé sur le seuil ses sabots et la boue des chemins. Aux poutres de la cuisine pendent de vieux rêves entre les bottes de simple et d'oignon. Et c'est une autre lampe basse, enchaînée, couleur de lune, qui veille sur ses mains tannées près du livre ouvert. Bakounine, Kropotkine, Élisée Reclus, Jean Grave, les compagnons de toujours, les prophètes libertaires et Tolstoï, qui certes n'était pas sabotier, mais savait à l'occasion ressembler des souliers. Et l'ami Rousseau, le rêveur solitaire, que dans ses pensées l'oncle appelle affectueusement Jean-Jacques, ou bien encore des romans, ceux du père Hugo, de Zola et de Balzac. Quant à la poésie, non, à l'oncle, ça ne lui dit rien. Et Baudelaire, il le laisse avec ses fleurs du mal dans un coin. La nuit s'aggrave, le poêle peine, des rats geignent dans la soupente. Sur la plage, sur la page, les mots s'embrument. Et le front sur ses bras, l'oncle s'endort. 3. Et moi, vieux poète déjà au bord du sombre fleuve, me voici sous ma lampe, dans cette grange, mon atelier, où jadis, me dit-on, vécurent la mule, le cochon et la volaille. Me voici donc dans cette désormais caverne de livres, à démêler dans la nuit les lourdes mèches de la mémoire. Derrière la fenêtre, l'ombre écrase le jardin. Au loin, sur les collines, un orage rôde et grogne, et des éclairs clignent de l'œil entre les rideaux. Je sais que la frontière est poreuse entre les vivants et les morts, et qu'il suffit de fermer les yeux et de penser à eux très fort pour qu'ils s'arrachent de leur tanière de racines. Aujourd'hui, vers moi, un mort familier se penche, et je suis là, courbé, à écrire sous ma lampe, à rameuter tant bien que mal les mots et les images, pour tirer de la boue les vieilles mains, le vieux visage, pour partager encore, comme jadis, le pain, les livres, les regards, et, sous la lampe, la balbutiante parole.
Merci beaucoup Jean, nous avons passé un moment très heureux en votre compagnie et à écouter votre poésie.